VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec en direct de la capitale américaine, mardi 16 octobre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 temps universel. Au sommaire ce soir, élection locale en Côte d'Ivoire, la victoire du parti au pouvoir se confirme, journée ville morte à l'appel de l'opposition en Guinée, un manifestant a été tué à Conakry. Tensions politiques aux Comores, les affrontements se poursuivent entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Arabie Saoudite, la disparition du journaliste Jamal Khashoggi sera notamment évoquée. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Élection en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté le scrutin local du 13 octobre, mais ces élections confortent surtout les ambitions présidentielles du PDCI en vue du scrutin de 2020. Bagassi Koura.
La coalition au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sort largement en tête du scrutin de samedi, remportant plus de 90 municipalités contre 51 aux indépendants et 47 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien allié du RHDP, passé dans l'opposition selon la quasi-totalité des résultats. Le RHDP confirme sa mainmise sur le pays avec ses victoires dans la plupart des communes d'Abidjan et notamment le grand quartier populaire d'Abobo, Boaké, la deuxième ville du pays, les grandes villes du Nord et San Pedro, deuxième port du pays. Toutefois, les résultats sont aussi bons pour le PDCI qui veut abandonner sa position de faiseur de roi pour reconquérir le pouvoir en 2020. Le parti de Henri Konan Bédié a pris la commune chic de Cocodier, celle très riche du plateau, ainsi que la ville de Yamoussoukro, la capitale politique et ville natale du premier président et fondateur du PDCI, Félix Houphouët-Boigny. La campagne électorale et le scrutin ont été émaillés de violences et d'incidents à travers tout le pays, ayant fait au moins 4 morts et entachés par de nombreuses accusations de fraude.
Seconde journée, ville morte en Guinée. Un jeune homme de 22 ans a été tué aujourd'hui en banlieue de Conakry. Un de ses proches affirme qu'il a été touché par balle à la poitrine. Hier aussi, l'opposition avait appelé à une journée ville morte. 5 manifestants ont été arrêtés. L'opposition a également prévu une marche jeudi pour protester contre la violation, selon elle, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Une trentaine de bandits, auteurs de rapts et de razzias de bétail, ont été tués lors d'opérations conjointes des armées du Niger et du Nigeria le long de la frontière des deux pays. D'après le ministre nigérien de l'Intérieur, plusieurs de leurs bases ont été détruites au Nigeria. Les opérations qui ont été menées au cours des 3 dernières semaines ont principalement concerné des espaces situés entre la région nigérienne de Maradi et la frontière nigériane, a indiqué Mohamed Bazoum, qui venait de séjourner dans la zone. Le sanctuaire des bandes armées est implanté au cœur d'une forêt dense et ces bandes rendent la vie particulièrement pénible pour les populations riveraines, a-t-il déploré. 45 personnes sont mortes au Niger dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en juin. Tel est le bilan quasi définitif annoncé par l'ONU. Plus de 200 000 personnes sont sinistrées. Dans le nord-est du Nigeria, une travailleuse humanitaire enlevée par Boko Haram depuis mars a été tuée par le groupe djihadiste. C'est ce qu'annonce le gouvernement nigérien. Nani Talani, les détails.
Awa Mohamed Liman, 24 ans, agent de la Croix-Rouge, a finalement été exécuté après l'expiration du délai imparti. Pourtant hier, le CICR avait lancé un appel à la clémence évoquant une situation déchirante. Le gouvernement d'Abuja affirme avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui sauver la vie. Le ministre nigérian de l'information, Lai Mohamed, qualifie ce meurtre d'ignoble, inhumain et impie. Il a ajouté que le gouvernement était profondément peiné par ce meurtre, mais s'est engagé à maintenir les négociations ouvertes et à continuer de travailler pour libérer les 2 autres femmes innocentes qui sont toujours sous la garde de leurs ravisseurs. Alice Loksha, agent de l'UNICEF, et Léa Charibou, une écolière chrétienne âgée de 15 ans, sont gardées prisonnières. Avant Awa Mohamed Liman, un autre agent humanitaire, Saïfoura Korsa, sage-femme du CICR, a été tué en septembre.
La justice a validé le non-lieu dans l'enquête française sur le naufrage du ferry sénégalais Djoula, une tragédie qui avait fait près de 1900 morts en septembre 2002 au large de la Gambie. Saisie notamment par l'Association des familles des victimes françaises du naufrage, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi. En 2014, des juges avaient estimé que les dispositions internationales applicables à ce naufrage les empêchaient d'engager des poursuites en France contre sept responsables sénégalais de l'époque, civils et militaires. Cameroun, le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable le recours de l'opposant Maurice Kamto. Le candidat malheureux à la présidence avait réclamé la récusation d'une majorité des membres de cette institution chargée de proclamer les résultats électoraux. Il les accuse d'être partiaux. La requête est irrecevable car Maurice Kamto n'est pas habilité à demander la récusation du Conseil, a estimé le président du Conseil constitutionnel, dont les membres sont nommés par le président Paul Biya. Des réfugiés figurent parmi les 200 000 Congolais obligés de quitter l'Angola en raison d'une opération visant l'immigration clandestine. Un partenaire congolais du HCR, la Commission nationale pour les réfugiés, fait état de 47 personnes. Nouvelle journée d'affrontement aux Comores où la situation politique est très tendue depuis plusieurs mois. Claire Morin-Gibourg.
Les tirs ont repris ce matin dans les rues de Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, entre l'armée et des manifestants hostiles au régime du président Azali Assoumani. Selon des témoignages, certains protestataires avaient des armes automatiques. Les autorités ont imposé hier un couvre-feu nocturne à Moutsamoudou, mais de nouveaux incidents se sont produits dès le lever du jour autour de la médina. Hier, les forces de l'ordre ont démantelé des barricades et ouvert le feu sur les manifestants qu'ils accusent d'être membres du parti d'opposition Jouva. La situation politique est très tendue depuis des mois aux Comores. Le chef de l'État fait interpeller des dizaines d'opposants qu'il accuse de dérives autoritaires. Parmi eux figure Abdallah Sambi, chef du parti Jouva et originaire de l'île d'Anjouan, qui est inculpé dans une affaire de corruption.
Éthiopie, le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed a nommé une femme pour la première fois ministre de la Défense dans le cadre de la formation aujourd'hui d'un gouvernement paritaire. Dans le cadre de ce remaniement, les femmes occupent des postes clés, dont celui de la paix, du commerce et de l'industrie. Algérie, environ 200 députés de la majorité bloquent depuis ce matin l'entrée de l'Assemblée populaire nationale. Ils ont cadenassé la porte pour empêcher l'accès à son président, dont ils réclament la démission. Ils lui reprochent une mauvaise gestion des dépenses exagérées et illicites et un recrutement douteux. L'Algérie et la Mauritanie ont récemment accepté l'invitation de l'émissaire onusien Horst Köhler à venir discuter les 5 et 6 décembre à Genève de l'avenir du Sahara occidental avec le Maroc et le Front Polisario, selon l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, recevant le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, a déclaré que Riyad et Washington sont des alliés forts, malgré la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Nous faisons face aux défis ensemble, que ce soit dans le passé, aujourd'hui ou demain, a déclaré le prince Mohamed Ben Salman. C'est la première de deux rencontres prévues entre Mike Pompeo et le prince saoudien. Riyad est d'accord sur la nécessité d'une enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi, d'après Heather Nauert, la porte-parole du département d'État qui a accompagné M. Pompeo en Arabie Saoudite. Hier, après s'être entretenu au téléphone avec le roi Salman, le président Donald Trump a laissé entendre que la disparition de Jamal Khashoggi pourrait être le fait de tueurs hors contrôle. Plus tard, des médias américains ont affirmé que l'Arabie Saoudite envisageait de reconnaître la mort du journaliste lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat saoudien à Istanbul. Les autorités turques ont fouillé le consulat où M. Khashoggi a été vu pour la dernière fois le 2 octobre. Selon des responsables turcs, le journaliste a été assassiné par des agents saoudiens, ce que Riyad a démenti jusqu'ici.
Les États-Unis poursuivent leur pression sur Téhéran. Washington a imposé des sanctions contre la milice Basij ainsi qu'un vaste réseau financier qui soutient cette force paramilitaire du régime iranien. Ces nouvelles mesures punitives visent officiellement le recrutement et l'entraînement d'enfants soldats par cette milice islamique, selon le communiqué du département du Trésor américain. Ils sont ensuite envoyés en Syrie par les gardiens de la Révolution, l'unité d'élite de la République islamique, pour soutenir le régime brutal de Bachar al-Assad. Assad a expliqué à des journalistes une responsable américaine affirmant que de nombreux enfants avaient combattu et étaient morts tragiquement au front. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Maniarakiza.
Au Bénin, le gouvernement envisage d'investir environ 439,8 milliards de francs CFA en 2019 pour améliorer les conditions de vie des populations. Ce portefeuille devrait permettre aux plus démunis d'accéder au microcrédit et accélérer la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Ces fonds devraient aussi permettre d'augmenter les mesures de gratuité dans le secteur de la santé et renforcer les cantines scolaires. La Côte d'Ivoire a procédé hier, en partenariat avec la Banque mondiale, au lancement d'un projet d'investissement forestier d'un coût total de 12 milliards de francs CFA. Il sera mis en œuvre dans 8 régions du pays et servira à renverser la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts. Il contribuera aussi à mettre en œuvre l'objectif zéro déforestation d'ici à 2020. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir, le gouvernement kényan veut mobiliser 545 millions de dollars cette année pour financer son projet de construction de logements sociaux. Chaque unité est estimée à environ 23 000 dollars. L'instauration d'une nouvelle taxe de 1,5% visant les travailleurs et les employeurs devrait faciliter la mobilisation de ce financement. Le gouvernement envisage aussi la mise en place de prêts bancaires abordables afin de permettre à la catégorie la moins nantie de la population kényane d'avoir plus facilement accès à une habitation.
La Minute Éco, Nani Kalani. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Quatrième journée décisive des éliminatoires de la CAN 2019 et Madagascar en plein bonheur.
Et oui, les Malgaches qui vont disputer pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations grâce à une victoire 1-0 en éliminatoire. La sélection malgache a obtenu son billet grâce à un but de Njiva Rakoto Arimalala contre la Guinée équatoriale. Jusqu'ici, le pays n'avait jamais dépassé le tour préliminaire, Morgane. Hormis le Cameroun, un qualifié d'office en tant que pays organisateur, Madagascar est donc la première sélection à obtenir son ticket pour le tournoi.
Autre qualifié ce soir ?
La Tunisie et l'Égypte se sont qualifiés pour cette CAN 2019 après leurs victoires respectives au Niger 2-1 et au Iswatini ex-Swaziland 2-0. Le Gabon est allé gagner au Soudan du Sud 1-0 grâce à un but d'André Beyoko-Poko, qui n'a plus qu'un point de retard sur le leader du groupe, le Mali, tenu en échec 1-0 au Burundi. La Guinée, également tenue en échec 1-0 au Rwanda, a raté une belle occasion de s'assurer une qualification alors que la Côte d'Ivoire est allée faire match nul 0-0 en Centrafrique. Beau résultat nul des Comores face au Maroc, 2-0. Match nul 0-0 entre le Malawi et le Cameroun. Même résultat entre les Seychelles et l'Afrique du Sud. La Tanzanie qui bat le Cap-Vert 2-0. La victoire précieuse grâce à un but d'Almeida du Bénin contre l'Algérie 1-0. La victoire 2-0 de l'Ouganda contre le Lesotho. Et puis Floyd Haïté a permis au Togo de s'imposer en Gambie 1-0. 0-0 pour le moment entre le Burkina Faso et le Botswana. 1-0 la Mauritanie devant l'Angola grâce à un but de bas. 0-0 entre la Namibie et le Mozambique, match nul 1-0 pour le moment entre le Zimbabwe et la RDC, le Liberia qui mène 2-1 face au Congo et le Nigeria qui mène pour le moment 2-1 face à la Libye.
Nouvelle journée de la Ligue des Nations en Europe.
Et oui, le coup d'envoi c'est dans quelques secondes maintenant, notamment les champions du monde français qui reçoivent l'Allemagne, l'Irlande face au Pays de Galles, l'Ukraine face à la République tchèque, la Norvège face à la Bulgarie et puis Chypre qui se déplace en Slovénie. On va vous donner également d'autres résultats à match en cours. La belle victoire du Kazakhstan face à Andorre 4-0 et l'Arménie qui s'impose 4-0 face à la Macédoine. Et puis on revient hier sur la belle victoire anglaise face aux Espagnols, 3-2, les 3 buts inscrits lors de la première mi-temps pour les Anglais, Morgan.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En Centrafrique, la Russie a récemment réuni les représentants des groupes armés au Soudan dans un processus de réconciliation. Et cette démarche de Moscou est-elle contradictoire ou complémentaire à la feuille de route de l'Union africaine? Idrissa a posé la question à Marie-Noëlle Koyada, ministre centrafricaine de la Défense.
Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une rencontre où le ministre des Affaires étrangères soudanais est venu avec l'Union africaine, tous les partenaires. Et le Soudan a expliqué le but de cette initiative qui a permis justement de regrouper tous les groupes armés pour qu'ils signent une déclaration. Mais cette déclaration doit être prise en compte dans le cadre de la feuille de route de l'Union africaine, qui est l'unique cadre que le gouvernement est en train d'y travailler. Et le Soudan a expliqué qu'ils ont effectivement sollicité l'appui logistique de la Russie pour faire ce travail. Et l'Union africaine aussi, maintenant, a demandé que tous les intervenants qui sont intéressés par la crise centrafricaine se retrouvent dans un panel des observateurs qui pourraient accompagner cette crise.
La présence russe en Centrafrique, combien?
Il y en a qui nous disent qu'il y a 4000 Russes au niveau de Bangui. Alors, comme vous savez, Bangui est une petite ville. S'il y a 4000 Russes au niveau de Bangui, automatiquement, c'est facile de le reconnaître. Vous savez aussi que la présence de la Russie en Centrafrique date de 1963. Donc c'est une ambassade qui est établie là-bas chez nous, c'est un partenaire. Depuis ce temps, on a travaillé avec tous nos partenaires.
Il y a 3 journalistes russes qui ont été tués, qu'ils étaient venus faire un documentaire sur une société qui s'appelle Wagner.
Ce problème de Russes qui étaient tués, nous déplorons cela parce que c'est des humains qui ont perdu leur vie. Mais sachez que notre pays applique, comme tous les pays d'ailleurs, qui se respectent, la liberté de presse. Tout homme de médias qui arrive chez nous pour couvrir n'importe quel événement, ils sont toujours les bienvenus. Mais il faut respecter les procédures. Ça nous permet aussi de savoir qu'ils sont sur nos territoires et d'assurer aussi leur sécurité. Ces 3 personnes russes qui sont arrivées n'ont pas eu l'accréditation au niveau du ministère de la Communication. Ils ne se sont pas présentés. Nous ne savons pas comment ils ont organisé leur séjour, mais nous avons appris qu'ils étaient vers la région de Dekwa et ils ont connu la mort par des hommes armés. Dans une telle situation, notre première réaction, c'est de voir avec l'ambassade de la Russie si ces personnes qui ont été tuées étaient reconnues par l'ambassade. Au début, c'était difficile de connaître leur nationalité. Et après des informations, on avait dit que c'était 3 Russes ou 2 Russes sur les 3, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés de connaître aussi l'évolution des enquêtes qui sont ouvertes et par le gouvernement et aussi par la Russie sur ce qui s'est passé. Et nous aimerions savoir les vraies causes de ces assassinats pour que nous puissions en tirer la leçon.
Marie-Noëlle Koyara, ministre centrafricaine de la Défense. Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM. Des milliers de jeunes ont quitté le Sénégal ces dernières années à la recherche d'un avenir meilleur. Mais le rêve de l'Eldorado ne se passe pas toujours comme prévu. John Lindon, notre envoyé spécial à Dakar, a rencontré Amadou Dior, qui relate ses mésaventures.
C'est à la place de la nation qu'il nous a donné rendez-vous. Amadou Dior, 45 ans, fait partie de ces milliers d'Africains qui ont décidé de quitter leur pays pour aller chercher le bonheur ailleurs dans le monde. Et pour lui, c'était la Turquie.
J'ai décidé de partir du Sénégal pour faire ma vie, trouver une bonne situation de vie, pour avoir une famille, une femme, pour fonder ma vie, s'il n'y a pas de travail.
En Turquie, dit-il, les conditions de vie étaient nettement meilleures que dans son Sénégal natal.
J'ai quitté ici en 2012. Les mêmes situations que j'ai rencontrées ici, je n'ai pas vu en Turquie. De là-bas, j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Chaque semaine, on me paye. Je travaille de l'argent à ma famille.
Pour y parvenir, Amadou Dio travaille dur, 6 jours par semaine, 12 heures par jour, comme peintre, carreleur ou fabricant de sacs. Mais au fil des années, les choses se compliquent et il n'est pas parvenu à être régularisé. Une situation difficile qui le pousse à retourner au Sénégal.
Je suis revenu au Sénégal parce que j'avais des problèmes là-bas, je ne pouvais pas rester. J'ai appelé mon marabout, il m'a dit de venir. Et j'ai venu. Mais Inch'Allah, je vais retourner. Inch'Allah, je vais retourner. Soit aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en Hollande. Mais je vais repartir. Inch'Allah, je vais repartir. S'il plaît à Dieu.
Depuis son retour au Sénégal, Amadou Dior dit n'avoir pris aucun contact avec les autorités sénégalaises. Cependant, il a un message pour elles.
Il est temps de comprendre. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tôt ou tard, tout va se revenir en Afrique. Parce qu'il y a la terre ici, il y a la terre, man. Et on peut travailler ici, il y a tout. Mais les autorités, il faut aider les gens, il faut aider les gens.
En attendant de voir de quoi demain sera fait, Amadou Dior continue de se battre. Il dit avoir déposé des demandes d'emploi dans au moins 4 sociétés, mais jusqu'ici, sans réponse. John Lyndon, Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, en moyenne, 2 personnes par jour sortent guéries du centre de traitement d'Ebola dans la région de Beni, dans l'est du pays. L'épidémie a déjà fait 135 morts. La vaccination et la sensibilisation continuent sur le terrain, mais au centre de traitement de Beni, les guéris ne cachent pas leur joie. Reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique à Beni, Charlie Kazereka.
Nous sommes au centre des traitements d'Ebola à Beni. Aujourd'hui, 12 personnes guéries, désormais ex-malades, viennent d'être autorisées à sortir et elles n'arrivent toujours pas à y croire après plusieurs jours d'isolement. Parmi elles, Janine, la vingtaine, la joie est immense. Difficile pour elle de s'exprimer, c'est son époux qui est venu l'accueillir et qui approche les micros des VOA Afrique pour partager sa réjouissance.
Ça fait au moins 22 jours qu'elle a fait ici. En tout cas, ça me fait vraiment une si grande joie. C'est la gratitude que j'ai vraiment vers le gouvernement congolais pour voir comment mon épouse a récupéré sa vie.
Ça sera une fête à la famille ?
Oui, c'est une fête là bien organisée que je dois préparer. Je vais égorger une chèvre pour elle.
Avant de les accompagner à leur domicile, l'équipe des sensibilisateurs organise pour elles des adieux avec ce qu'ils appellent un kit de sortie. Roger Sambili, l'un des communicateurs au centre des traitements.
Moi, pour la journée d'aujourd'hui, il y a 12 qui sont sortis. Il faut aussi ajouter un autre cas confirmé qui est sorti hier. Et vous voyez, il y a aussi une pièce de pagne. À côté de ça, il y a également une belle robe que nous remettons aussi aux malades guéris. Les gens qui sortent d'ici nous servent, n'est-ce pas, des sensibilisateurs au sein de la communauté.
Pour une bonne communication et partage d'expérience, certains anciens malades reviennent au centre en tant que sensibilisateurs de terrain. C'est le cas de Massika Janine, une ex-malade, aujourd'hui dans l'équipe de mobilisation. Une tâche difficile de convaincre tout le monde dans une région où la méfiance et les croyances bloquent la riposte.
poste. Docteur Maurice de l'hôpital de Manguina explique.
Après l'annonce de cette épidémie d'Ebola, d'autres pensent que c'est une maladie démoniaque et d'autres stipulent que c'est une intoxication. Ils ont intérêt à comprendre que le virus est déjà parmi nous. Ceux qui ont discuté sont morts, mais l'important c'est seulement de respecter ce que les corps soignants exigent comme pratique.
Déclaré depuis le 1er août dernier, la maladie à virus Ebola a déjà fait au moins 130 décès sur les 211 cas signalés dans la région, avec plus de 16 000 personnes vaccinées dans la province du Nord Kivu et celle d'Ituri. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Et c'est aujourd'hui la journée internationale de l'alimentation. La nécessité de garantir la sécurité alimentaire pour tous est de plus en plus pressante. Selon les experts, ce problème est tout à fait soluble grâce au progrès de la technologie et l'intelligence artificielle qui peuvent aider à nourrir la planète. Mais pour l'instant, des obstacles empêchent les avancées des pays les plus performants du point de vue technologique d'atteindre les pays en développement. Un reportage d'Elisabeth Lee, dont Dili Dico nous fait le récit.
La faim touche une personne sur neuf dans le monde. Ce nombre est en augmentation et la pauvreté n'en est pas la seule raison.
De plus en plus, nous constatons également que la famine est provoquée par les déplacements liés aux conflits et aux catastrophes naturelles.
Désormais, les organisations humanitaires se tournent vers les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle pour lutter contre l'insécurité alimentaire.
Ce que l'intelligence artificielle nous offre actuellement, c'est la capacité d'accroître les capacités humaines. Nous ne parlons donc pas de remplacer les êtres humains, mais plutôt d'être plus efficaces et de faire mieux que nous ne puissions par la seule capacité humaine.
L'intelligence artificielle peut analyser d'immenses quantités de données pour aider les agriculteurs des pays en développement et tenir compte des zones touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Les agriculteurs peuvent ensuite accéder aux données à partir de leur smartphone.
Lorsque vous utilisez vos données, les données cartographiques du sol et l'intelligence artificielle pour faire une analyse, vous pouvez partager les informations obtenues. Donc, en un mot, vous pouvez aider les fermiers à savoir quand planter, quoi planter et comment planter.
Lorsque vous commencez à combiner différentes technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, les capteurs sensoriels, c'est là que la magie se produit, dans les fermes, la production et l'accroissement des rendements.
Mais les pays en développement sont souvent les derniers à avoir accès aux nouvelles technologies.
815 millions de personnes ont faim. Et je peux vous parier que près de 814 millions sur ces 815 millions n'ont pas de smartphone.
Dans l'avenir, pour lutter contre la faim dans le monde, il faudra former les agriculteurs afin qu'ils puissent tirer parti des possibilités offertes par l'intelligence artificielle en nourrissant ceux qui souffrent de la faim.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Firmin Koyaweda, la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.